RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Et bienvenue à tous. Afrique Press, l'actualité en débat cette semaine uniquement sur RFI. L'émission reprendra avec TV5 Monde le 12 janvier prochain. Et l'on retrouve nos invités d'ailleurs de la semaine dernière, Pascal Hérault du quotidien L'Opinion, Louis Magloire Comayou du Club de la presse africaine, et puis Albert Bourgie, juriste, spécialiste de politique africaine et observateur attentif de l'actualité africaine, notamment en 2017, nous commentons aujourd'hui, messieurs, au seuil de cette fin d'année, un événement marquant survenu en 2017, donc, dans chacune des 5 sous-régions du continent. Et l'on commence, Louis Comayou, par l'Afrique australe et cette chute de Robert Mugabe le 21 novembre dernier, après 37 ans de règne à la tête du Zimbabwe, d'abord comme Premier ministre, puis comme chef de l'État. Les ambitions de sa jeune épouse, Grace, auraient précipité sa chute et donc favorisé l'arrivée au pouvoir d'Emerson Mnangagwa, son ex-vice-président. L'ex-vice-président que Robert Mugabe avait d'ailleurs remercié quelques temps auparavant. Voilà, une chute que personne n'attendait.
Oui, elle n'était pas attendue, mais elle était prévisible en quelque sorte, parce que le groupe de ceux qui se sont battus, de tous les combattants qui ont permis au Zimbabwe de devenir ce qu'il est aujourd'hui,
c'est-à-dire
à la fois un pays indépendant et présent sur la scène internationale sans discrimination, parce que on oublie souvent que c'est grâce à Robert Mugabe que l'entente entre les Blancs et les Noirs au Zimbabwe a pu tenir, parce que Ian Smith, qui était son rival, aurait pu être attaqué, vu les positions extrêmes qui étaient les siennes, mais Mugabe l'a maintenu, et malgré toutes les tentatives de coup d'État qu'il avait perpétrées contre lui.
Mais il a fait exploser cette cohésion avec sa réforme agraire.
C'est la réforme agraire qui a marqué le début de la fin, puisque la crise économique que traverse le Zimbabwe a commencé par là. Il y a eu l'intervention très hasardeuse en République démocratique du Congo, qui a également pesé énormément sur l'économie du pays, et puis finalement les choix de Grace qui ont définitivement scellé le sort de Mugabe.
Voilà. Robert Mugabe est donc parti, Pascal Hérault. Une révolution de palais sans effusion de sang, car le régime de la ZANU-PF, donc avec ses anciens combattants, ses vétérans de la guerre d'indépendance, reste en place au Zimbabwe.
Ils restent en place. Ils aménagent quand même une sortie honorable à Mugabe, qui restera comme un héros de la lutte contre l'impérialisme. Moi, ce que je souhaite souligner, c'est la perte de lucidité de ces chefs d'État qui restent au pouvoir et qui veulent s'accaparer. Il a perdu tous ses alliés, il a perdu ses alliés auprès des vétérans de guerre, il a perdu des grandes puissances comme la Chine qui le soutenait, il a perdu de sa lucidité dans ses derniers moments avec une femme grâce à qui il était prêt à accorder toutes les concessions. Ça prouve quoi? Que quand il y a des successions familiales en Afrique, ça peut marcher. Quand il y a un très grand laps de temps, comme ça s'est passé au Kenya avec la famille Kenyatta, ou avec Yann Kama aussi, mais quand on cherche à l'imposer de père en fils, de femme à époux, il y a beaucoup plus de chances que ça aboutisse à une révolution ou à une crise.
Voilà, le départ de Mugabe, Albert Bourgie, que retenir de ce long règne qui quand même aussi a été marqué par la répression, une répression sanglante de ses rivaux politiques.
De ses rivaux politiques, bon, c'est bien sûr ce qui vient d'être dit par nos amis, je partage pour l'essentiel, mais c'est vrai aussi que Mugabe, gardons à l'esprit qu'il a été un de ceux qui ont lutté de manière féroce contre le colonisateur anglais. L'histoire des terres, le partage des terres, tout ce qu'on veut. Moi, je me souviens d'un chef d'État qui assistait à sa première réunion de l'Union africaine à l'époque, et qui me disait: c'est incroyable, le plus applaudi, populaire, c'est Robert Mugabe. Donc il n'y a pas longtemps,
Nelson Mandela récemment.
Donc ça signifie que au fond, c'est vrai qu'il y a eu, pardonnez-moi l'expression, des digressions de la part de cet homme qui est un homme qui s'est inscrit dans l'histoire politique, non seulement de son pays, mais de l'Afrique en général. Il a su tenir tête, en tout cas, à l'ancien colonisateur, à propos notamment des terres, et il leur a tenu tête véritablement, de manière absolument à la fois, bien sûr, sobre, parfois, mais aussi de manière forte quand il le fallait. Il faut pas l'oublier. Je crois que Mugabe est un de ceux qui ont marqué l'histoire politique du continent, sa libération, notamment du joug colonial et du joug colonial britannique.
Voilà, avec l'aspect sombre, encore une fois, de cette répression qui a coûté des milliers de vies aux Zimbabwéens pour des raisons partisanes. On reste avec vous, Albert Bourgi, pour parler du départ de Yahya Jammeh. Ça se passe en Gambie, notre deuxième sujet, événement majeur en 2017, donc en Afrique de l'Ouest. Après avoir reconnu sa défaite à l'issue de la présidentielle quelques semaines auparavant, Yahya Jammeh fait volte-face et pousse son rival Adama Barrow à se réfugier carrément au Sénégal, d'où il prêtera serment d'ailleurs à l'ambassade de Gambie à Dakar. Alors, sous la pression de la CEDEAO, militaire avec l'aide du président sénégalais Macky Sall et diplomatique avec l'aide du président guinéen Alpha Condé, eh bien, Yahya Jammeh se résoudra à quitter le pouvoir et à s'exiler. Oui. C'était le 20 janvier 2017, au terme de 22 ans de règne.
Oui, 22 ans de règne, mais vous savez, si on calcule les années de règne d'un certain nombre de présidents, on n'en finirait pas.
Absolument.
Lui, on est une figure particulière. Mm-hmm. Mais ce que je voulais simplement dire à ce propos, et je partage bien sûr tous les éléments, les faits que vous venez d'énoncer, c'est que dans le cas de la Gambie, Yahya Jammeh a fait son temps. Il a été battu, il fallait qu'il parte. Et je crois qu'en définitive, le fait que le Sénégal est menacé ou est brandi l'éventuel usage de la force, et que de l'autre côté, il y a eu la diplomatie de chefs d'État, et notamment d'Alpha Condé, et pour précisément permettre à ce monsieur qui n'attendait que ça, une bonne sortie.
Sortie pacifique.
Ma foi, c'est bien conclu. Et je crois que l'histoire ne retiendra pas les petites bisbilles entre, je sais pas, le chef de l'État mauritanien et le chef de l'État sénégalais. Non. Ça,
c'est
tout à fait secondaire. Et bien sûr, il faut espérer à Yahya Jammeh qu'il se tienne bien là où il est, en tout cas.
Voilà, en Guinée équatoriale. Que dire, Louis, de ce départ de Yahya Jammeh, hein, qui s'était hissé au pouvoir, rappelons-le, par un coup d'État.
Tout à fait. Non, mais ce qu'il faut saluer dans cette transition qui s'est passée, c'est le fait que quelque part, on a l'impression que lui-même en avait presque marre, qu'il en appelait à partir, et que, pour des raisons qui m'échappent, il a d'abord accepté sa défaite, puis est revenu sur sa position pour insister et rester président. Mais après tout, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'il a réussi à partir sans qu'il y ait d'effusion de sang, voilà, et que derrière, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Voilà. Et que ça, c'est un mérite qu'il faut reconnaître à la CEDEAO, malgré tous ses errements dans les précédentes et les actuelles crises.
Pascal, la Gambie, Yahya Jammeh.
La Gambie, ce qui est intéressant, on en parlait la semaine dernière dans votre émission, c'est que on reprochait à la CEDEAO de ne pas avoir pris ses responsabilités. Dans le cas de la Gambie, elle a pris ses responsabilités.
C'est ça.
Elle a permis le changement de pouvoir pour que le candidat élu à l'issue du scrutin accède au pouvoir. Autre chose, je crois que pour Yahya Jammeh, l'histoire n'est pas terminée. Actuellement,
en Guinée équatoriale.
Il est en exil en Guinée équatoriale, mais Human Rights Watch est en train de monter et de compiler un dossier avec les organisations des droits de l'homme pour le traduire en justice. Le sort qui pourrait lui être réservé, c'est le sort qu'on a réservé à Hissène Habré.
Voilà. RFI Afrique Presse, et l'on passe à l'Afrique centrale pour notre troisième événement à retenir en 2017, le bail supplémentaire d'un an accordé par l'ONU, hein, avec l'aval de l'ONU à la RDC pour tenir des élections post-Kabila, Joseph Kabila, qui bénéficie du coup de 2 années de mandat en bonus, alors que son dernier mandat était censé se terminer en 2016, Pascal. Bref, Joseph Kabila est parvenu à la fois à diviser l'opposition et à contourner les accords de la transition, de négocier avec l'Église, et puis en gros à faire un bras d'honneur à la communauté internationale.
Oui, c'est la stratégie qu'il met en place depuis très très longues années, la stratégie du glissement qui paye. Durant son mandat, il n'a pas budgétisé les élections. On est arrivé au terme de son mandat. Il a mené un certain nombre de dialogues, de gouvernements intérimaires qui l'ont reconduit pour un an. On repart pour une autre année. Ça risque de durer encore très longtemps s'il n'y a pas un signal très clair de la communauté internationale.
Et
il faut aussi que l'opposition se ressoude, parce qu'elle est divisée depuis la mort de Tshisekedi. Et si société civile, opposition, église catholique ne vont pas dans le même sens et opposent une pression très forte sur le pouvoir en place, on risque de rester dans l'impasse.
Oui, Louis.
Nous avons dans l'opposition deux cas de figure.
En RDC,
En RDC, naturellement. Nous avons deux cas de figure. Celle d'abord où On reconnaît à Kabila ses qualités de judoka où il utilise la force de son adversaire pour le terrasser. Mmh. Et devant cela, quelle est la stratégie de l'opposition? Vous avez d'un côté ceux qui payent pour être considérés comme opposants légitimes et prendre toute la lumière, et d'autres qui continuent à se comporter en enfant gâté. On va pas citer les contemporains, mais tout le monde se reconnaît dans la stratégie. Le fait est que l'urgence aujourd'hui pour la RDC, c'est de garder l'œil ouvert sur la situation. Le PPRD, le parti du président, est en train de se requinquer. Okay. Il a gagné pas mal d'élections locales récemment, et ça, c'est un signal qui peut être très mauvais si jamais il avait l'impression qu'il n'est pas si désapprouvé que ça, et qu'il pourrait continuer sa stratégie.
Alors, Albert Bourget, on nous dit que les dirigeants africains doivent être le reflet, doivent refléter la jeunesse majoritaire sur le continent. Joseph Kabila, qui est âgé aujourd'hui de 46 ans, a été imposé, on se souvient, en 2001 à la mort de son père, mais on ne peut pas dire que sa jeunesse ait révolutionné les pratiques politiques.
Pas du tout. Sa jeunesse n'a certainement pas modifié les pratiques politiques. Mais moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est le silence de ce qu'on appelle la communauté internationale. D'habitude, on est toujours prompte, surtout dans une affaire comme celle-ci. Alors, on peut se poser la question de savoir, par exemple, pourquoi l'Union européenne? L'Union européenne qui est toujours à la pointe, disons.
Attention, l'Union européenne a décoché 17 sanctions ciblées dans l'entourage de Kabila.
Oui, 17 sanctions ciblées dans l'entourage de Kabila. Mais il y a d'autres manières, au-delà des condamnations de forme, il faut bien dire les choses comme elles sont, de certains dans l'entourage de Kabila. Il y a d'autres moyens de le faire. C'est vrai aussi que la mort de Tshisekedi a d'une certaine manière démobiliser une partie de l'opposition à Kabila, mais je crois franchement que ce qui se passe actuellement est extrêmement dangereux. Mais que font par exemple ceux qui sont toujours prompts à dire écoutez, en Afrique ça va pas, on maintient en agence, tout simplement parce que c'est vrai que le pays est un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés, 84-85 millions d'habitants, des richesses invraisemblables. Pour peu qu'il y ait une déstabilisation de la RDC, c'est toute la région qui va trinquer, qui va en souffrir incontestablement. Donc il y a vraiment cette crainte que finalement ce qui peut se passer mal, en tout cas en RDC, puisse en quelque sorte déstabiliser toute la sous-région. Voilà. C'est la réalité.
Alors, cela dit d'ailleurs, Kabila n'est pas parvenu simplement à diviser l'opposition, mais il est parvenu aussi à diviser la communauté internationale sur le dossier de la RDC quand on interroge notamment des hauts fonctionnaires de l'ONU. Et l'on passe à présent au Kenya, où la Cour suprême a invalidé l'élection du 8 août dernier, alors que Uhuru Kenyatta, le sortant, avait été déclaré vainqueur par la commission électorale devant son opposant Raila Odinga. Louis, c'est quand même une décision importante et rare.
Très rare. C'est la première fois, pour dire la vérité, que cela se produit, que la Cour constitutionnelle tranche...
La haute juridiction du pays.
La plus haute juridiction du pays tranche en la défaveur du candidat sortant. Donc c'était quelque chose d'assez remarquable, mais qui s'est tourné presque en autre boudin, parce que celui qui devait profiter de cette décision a refusé d'aller aux élections finalement.
C'est ça.
Et donc on a dû faire une élection presque de rattrapage en reprenant les anciens candidats qui ne s'étaient pas qualifiés pour le second tour, et finalement c'est Uhuru Kenyatta qui a gagné dans la bataille dynastique qui opposait les fils d'eux pour la présidence de ce pays.
Voilà, beaucoup de bruit pour rien autour de cette décision de la Cour suprême du Kenya, Pascal, ou d'attente déçue?
Non, c'est une décision qui restera dans l'histoire de l'Afrique. Parfait. Mais après elle aurait mérité beaucoup plus de suivi. Et on a laissé à Uhuru Kenyatta la possibilité de passer en force et de pas faire les réformes qui étaient demandées, notamment au sein de la commission électorale et de l'opérateur technique. Des demandes qui étaient faites par l'opposition sur justification de la décision de la plus haute juridiction du pays. Mmh. Et on a abouti à une élection contestée de Uhuru Kenyatta.
Le 26 octobre dernier. Un dernier mot, brièvement, sur le Kenya.
Moi, je vais positiver, comme l'ont fait nos amis, c'est qu'au fond, ça montre bien que le constitutionnalisme est en train de prendre racine en Afrique. N'oublions pas cela. C'est-à-dire que la justice, jusqu'à maintenant, la justice constitutionnelle était complètement bradée, elle était insignifiante, qu'elle n'arrivait pas à s'imposer ou à se légitimer. Or, c'est le cas, et c'est le cas de plus en plus. Même si c'est, ça reste limité, mais ça peut faire tache d'huile. Et il y a des pays, par exemple, en Afrique subsaharienne, au Sénégal, pour ne prendre que cet exemple, il y a eu des moments où ma foi, la justice constitutionnelle a dû affronter purement et simplement le pouvoir exécutif. Il y a eu, ne l'oublions jamais aussi, la démission du président de Kebambay, c'est à ça. Un moment donné, juste à la veille d'une élection présidentielle. Donc je crois que ça, c'est un point extrêmement important qu'il faut prendre en considération et, me semble-t-il, soutenir. À savoir que ce qui vient d'être décidé précisément par la justice constitutionnelle de ce pays, eh bien, peut faire tache d'huile, et il faut le souhaiter, en tout cas ailleurs, dans la plupart de nos pays d'Afrique.
Voilà, cinquième et dernier événement, le Maghreb, le retour du Maroc dans le juron de l'Union africaine. Africaine, hein, après avoir déserté l'organisation panafricaine en 1984, après l'adhésion du Sahara occidental, Pascal, en deux mots.
Oui, c'est un retour dans la famille naturelle. Le Maroc qui est à l'origine de la création de l'OUA. Le Maroc a dû faire des concessions, accepter de siéger aux côtés de la RASD, ouais. Mais elle est en train de marginaliser la RASD. On l'a vu au dernier sommet.
Et même l'Algérie sur le plan diplomatique.
Voilà, et l'Algérie qui a un président grabataire. On l'a vu au dernier sommet de l'Union africaine, Union européenne, où sur la photo officielle, le représentant du Polisario est relayé loin derrière et où il n'a pas pu prendre la parole.
Le retour du Maroc, une bonne chose, Louis ?
Il n'y a à la fois ni extase ni surprise à cela, parce que le Maroc reste un pays africain, qu'il le veuille ou pas, c'est un pays africain. Et donc, au bout du compte, ce que je retiens surtout, c'est que l'Union africaine est en train de consolider aujourd'hui son unité à l'échelle internationale, et c'est ça qu'il faut saluer avant toute autre chose.
Voilà, oui, la consolidation de l'Union africaine.
La consolidation de l'Union africaine. J'étais présent à cette séance où bien évidemment le vote est intervenu. Il n'y a pas eu vote. Il n'y a pas eu vote, quasiment. L'Algérie n'a pas bougé.
Le
Nigeria n'a pas bougé. L'Afrique australe. On craignait une réaction de l'Afrique du Sud. Pas du tout. Donc ça signifie qu'il y a eu, ma foi, une prise de conscience de la plupart des États africains, que si on est solidaires, si on est tous ensemble, on pèsera davantage et on pourra davantage en tout cas s'exprimer et faire prévaloir notre parole sur le plan international.
D'accord.
Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aujourd'hui, me semble-t-il, et c'est un des faits majeurs, me semble-t-il, de la diplomatie, en tout cas africaine, de ces dernières années. Jusqu'à maintenant, l'OUA d'abord était cantonnée dans les rivalités entre le groupe de Casablanca, le groupe de Monrovia, etc., oui. etc. On ne savait pas très bien où cette organisation allait. L'Union africaine, jusqu'à maintenant, pataugeait. Elle pataugeait surtout avec, il faut dire aussi, la présidente de la commission. Il semble que l'actuel président, le tchadien de la commission, soit plus actif et soit en tout cas plus prégnant en matière de politique extérieure au continent, et en particulier les contacts qu'il a entrepris en dehors du continent africain.
Voilà, et puis il y a les réformes engagées sous le mandat de Alpha Condé, le président de Guinée, et qui normalement devraient être poursuivies par le prochain président en exercice. Paul Kagame, qui a d'ailleurs conduit cette commission de réforme. Malheureusement, messieurs, nous n'aurons pas le temps. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous aurions pu parler, à propos de l'Afrique du Nord, de cette découverte consternante de migrants subsahariens réduits en esclavage en Libye. Mais donc, on a retenu un sujet un peu plus souriant, donc le Maroc. Merci à vous, Albert Bourgie, Pascal Hérault et Louis Magloire-Comayou, à la réalisation Julien Lingue. Cette émission est à retrouver sur le site internet de RFI. Afrique Presse, ce sera uniquement sur RFI la semaine prochaine, avant la reprise de l'émission avec TV5 Monde le 12 janvier 2018. En attendant, grand merci de votre fidélité et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI Mondingue.
Don, oye, anka kubolo dale un lame manikala. Nega kanya segi anatan fla mandé dugula. Kunafoni nunu nyesinebe mandé dugudema.
Écoutez RFI en mandinkan à Bamako sur 98.5 FM et sur ma.rfi.fr.